parle de voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Combien y a-t-il de pauvres ? Eh bien, on peut commencer par là, avant de savoir si on peut lutter contre la pauvreté en 2016. Alors, bonne nouvelle qui ne saute pas vraiment aux yeux, la pauvreté baisse dans le monde pour passer sous la barre des 10% en 2015, dixit la Banque mondiale. Quelques 702 millions de pauvres vivraient sous le seuil de pauvreté qui a été porté, d'ailleurs, je vous le rappelle, de 1,25$ à 1,90$ par jour. Donc, l'objectif, c'est zéro pauvreté pour 2030. Alors, c'est un objectif de développement pour le millénaire. Est-ce une utopie de vouloir éradiquer la misère ? Que faut-il faire pour cela ? On en parle aujourd'hui en direct avec trois invités. Alors, je commence avec vous, Jean-Christophe Sarrault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes permanent à ATD Quart Monde et vous avez participé à la réédition du livre « Pour en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». C'est donc aux éditions Quart Monde, vous partagez une coédition avec les éditions de l'Atelier. Alors, en vrac, il y a énormément de clichés dans votre livre que vous essayez de battre en brèche. En vrac, je dirais que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. On ne vit pas trop mal avec le RSA. Les migrants aussi seraient attirés par notre protection sociale, et si on les accueille, ça va faire des appels d'air. 117 idées reçues tout de même, hein. Vous les avez comptées, 117, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, elles sont bien tenaces, mais voilà, à chacun de les déconstruire.
Et c'est ce que vous faites, hein. vous les prenez une par une pour déconstruire donc ces préjugés. À côté de vous, Manuel Domergue, bonjour.
Bonjour.
Directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, et vous avez lancé une campagne hashtag On attend quoi ? Qu'est-ce que vous attendez là ? Vous voulez réveiller les consciences sur le sujet du mal logement ?
Oui, c'est la tradition de l'Abbé Pierre puis de la Fondation Abbé Pierre de dire qu'il ne faut pas se résigner à la pauvreté, au mal logement, et qu'on a été capable par le passé de faire reculer le mal logement. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de le faire à nouveau aujourd'hui.
Et vous sortez aussi un livre, hein, toujours aux éditions de l'Atelier aussi, à sortir de la crise du logement. C'est possible, donc vous serez vigilant et actif jusqu'aux élections présidentielles de 2017, hein, pour mobiliser sur ces questions du mal logement. Votre fondateur, eh bien, Abbé Pierre, hein, c'est une figure qui a consacré sa vie aux plus démunis, et il est dans le livre de Michel Bolacel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur des Insurgés de la pauvreté aux éditions Philippe Ray. Alors effectivement, il est là avec, il a à ses côtés le pape François, Pedro aussi de Madagascar qui travaille dans les bidonvilles, Mohamed Younous. Ils disent tous, c'est des personnages que vous avez choisis parce qu'ils disent non, hein, au désespoir, et vous reprenez leur vie, le fil de leur vie dans cette lutte.
Oui, tout à fait. Nous avons voulu une perception universaliste, si vous voulez, de la pauvreté. À l'origine, c'était André Bonnet, mon co-auteur, qui n'avait pas fait deux séjours près des chiffonniers du Caire et qui s'était intéressé aux personnages, aux médecins proches de Sœur Emmanuel. Et puis, en rentrant, on a décidé d'élargir, si vous voulez, ce panel, donc aux hommes, aux femmes, croyants, incroyants, venus de divers milieux, de divers continents, pour évoquer ce sujet de la pauvreté.
Alors, il y a un personnage, on va juste en dire un mot avant de commencer, cet ancien président de la République de l'Uruguay, Pepe Unatitude, oui, un homme qui a pris le pouvoir et qui a pu décider de choses très, très...
Pepe Mujica, ouais. Effectivement, un personnage singulier, atypique, mais extrêmement estimé, tant en Uruguay que dans l'ensemble de l'Amérique latine, parce que, enfin, il est quand même assez rare qu'avant d'accéder au pouvoir, un nouveau président pose trois conditions, celle de ne pas demeurer sous les ordres présidentiels, mais de conserver sa finca à quelques kilomètres de Montevideo, de même de conserver sa petite coccinelle bleue, et puis de n'avoir que 10% de son salaire, donc, et qui les 10% équivalents au salaire du SMICA uruguayen.
Belle attitude avec tous les autres, hein, qui sont regroupés donc dans cet ouvrage, Les Insurgés de la pauvreté. On ira aussi au Brésil, hein, pour voir comment les politiques en faveur des pauvres ont fonctionné dans ce grand pays. Alors les voisins, les voisines, peut-on supprimer la misère dans le monde ? On attend vos témoignages, vos commentaires, vos questions au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors, on a beaucoup de messages hein, sur Facebook. Il y a Franck, par exemple, de Brazzaville, qui nous dit, à la question « qu'est-ce que la misère ?» Pour lui, c'est vraiment manquer des besoins essentiels. Il dit que dans son pays, donc au Congo-Brazzaville, eh bien, on peut observer qu'en 2016, les gens vivent vraiment au jour le jour. Il n'y a pas d'économie. Il est juste question de survie. Roger à Douala, en Afrique, nous dit que on a normalisé la pauvreté. Elle est visible partout, près de chez soi et dans la rue. Elsen, à Port-au-Prince aussi, un pays sûrement les plus pauvres du monde, hein, il dit que la pauvreté est l'avilissement du genre humain. En Haïti, la pauvreté est la règle et la richesse est l'exception. Et la majorité des Haïtiens vivent avec moins $1 par jour. J'ai envie de compléter aussi avec Valérie de Yaoundé qui nous dit qu'il faut tout d'abord combattre la pauvreté intellectuelle et faire en sorte que les détenteurs du pouvoir agissent dans l'intérêt de la majorité et non au profit d'une élite. Nous y voici effectivement avec des idées pour essayer de sortir de cette pauvreté. Et je vais finir avec Igba de Marrakech qui dit « on fait comme on peut, mais nos actions citoyennes restent bien minimes face à l'étendue du fléau. Mais pour autant, nous ne sommes pas découragés. » Donc effectivement, les voisins et les voisines, on ne baisse pas les bras. On a des messages encourageants. Et continuez d'échanger sur Facebook. Et Camille aussi, qui vous attend au standard au 33 1 84 22 71 71 pour participer à l'émission.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Comment lutter contre la pauvreté en 2016? Et nous avons Kader qui nous appelle de Ouagadougou. Et vous avez votre petite idée, Kader. Bonjour.
Bonjour, RFI. Bonjour, les auditeurs de 7 milliards de voisins. Bien, en tant que président de l'association d'aide sans frontières aux élèves et maires de Mini du Burkina, en abrégé AASEMDB, je voudrais d'abord encourager les journalistes de la Radio du Monde pour les beaux travaux qu'ils réalisent. Bien, notre association a été créée en 2016. Nous avons eu le réquisition le 15 avril 2016, émargé par le ministre de l'administration territoriale, M. Simon Compaoré. Nous avons fait le journal officiel, mais ce n'est pas encore sorti. Mais l'association a déjà commencé ses activités. Nous avons fait des dons de fournitures aux élèves de l'école primaire privée évangélique, les Princes, le 9 juillet 2016. Le but de notre association est de promouvoir l'éducation, assister les élèves et maîtres de nous, octroyer des microcrédits, aider les orphelins et les veuves, construire des salles de classe. L'association a déposé des demandes de partenariat au MENA et à l'UNFSNF, le ministère de la Femme, de la Sécurité nationale et de la Famille. Toute aide, en tout cas, est la bienvenue dans l'association. L'adhésion fait 5 000 francs et nous avons des cotisations annuelles que nous faisons à 5 000 francs. Les rencontres sont trimestrielles. Le site de l'association est www.association.2e-boutique.com.
Merci beaucoup Kader pour ce témoignage. On va retrouver effectivement votre association sur le site de 7 milliards de voisins. Alors vous avez donc décidé de vous engager auprès de familles démunies. Alors vous commencez à toute petite échelle. Merci en tout le monde. C'est vrai que tout le monde peut commencer par là. On a envie de dire un peu comme Kader, il y a ces grands personnages dans Les Insurgés de la pauvreté, mais chacun à son niveau. Michel Bolassel, effectivement, peut faire quelque chose.
Bien entendu. Et je voulais répondre d'une certaine manière à Valérie, au message de Valérie sur Facebook, j'ai un peu le sentiment que c'est elle, et qui disait qu'effectivement, on n'est pas pauvre uniquement qu'au plan alimentaire ou du logement. On est pauvre quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, quand on n'a pas accès au niveau de culture. C'est extrêmement important.
Oui, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est ce que vous dites au début de votre livre, Michel Bolassel.
Et ce que dit Jean-Christophe Ruffin aussi, je veux dire, qui était en tant qu'ancien président d'Action contre la faim, qui a mis l'accent là-dessus en disant que, bon, ma foi, tout le monde avait une petite démarche pour lutter contre la pauvreté. Et puis, chacun faisait ce qu'il pouvait. Et puis, il y a les plus absolus, ceux qui ont envie, manifestement, de s'y engager pleinement, tout simplement parce qu'ils considèrent que leur notion de bonheur propre est incompatible avec la souffrance des autres.
Alors, cette souffrance, elle a quand même une réalité au niveau de la planète. Plus de 9 millions millions meurent chaque année de faim. Ça fait quand même une personne toutes les 4 secondes. Mais selon la Banque mondiale, donc la pauvreté dans le monde devrait passer pour la première fois sous la barre des 10%. Alors on est sur la bonne pente au niveau mondial, Manuel Domergue.
Au niveau mondial, peut-être, si on prend une mesure de la pauvreté qui est purement monétaire, c'est pas inutile, hein, il faut bien avoir des indicateurs, mais effectivement, ça ne résume pas la pauvreté qui est essentiellement relative en fait, à chaque société. En France, le seuil de pauvreté, par exemple, c'est 60% du revenu médian. Avec ce montant-là, dans la plupart des autres pays du monde, on serait plutôt considéré comme riche. Mais évidemment, tout est relatif. Donc tout dépend de la société dans laquelle on vit et à qui on se compare. Et en France, il y a assez peu de personnes qui meurent de faim, heureusement. Mais il y a des personnes qui sont en situation de pauvreté, voire de grande pauvreté, parce qu'elles n'ont pas accès à un logement ou parce que leurs mauvaises conditions de logement, parfois, les empêchent de se nourrir correctement. Alors il y a peu de personnes qui meurent de faim, mais il y a beaucoup de personnes qui sont malnutries en France encore aujourd'hui.
Alors c'est vrai que si on regarde au niveau international, on compte quand même aujourd'hui pas loin d'un milliard de personnes qui vivraient en dessous de ce seuil de pauvreté, donc moins de 2 euros par jour et par personne. Et en plus, le seuil a été augmenté quand même. Enfin, donc avant, on était considéré comme extrêmement pauvre en dessous de 1,25 $. Maintenant, c'est 1,90 $. À votre avis, au niveau mondial, comment on explique ce recul, Jean-Christophe
Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Je voulais revenir aussi sur le témoignage de Kader pour dire que s'attaquer aux racines de la misère par l'éducation, par la culture, c'est vraiment fondamental parce que ça répond à l'aspiration de tous les parents qui veulent que leur, quelque milieu qu'ils soient, qu'ils veulent que leur enfant apprenne pour vivre mieux, une meilleure vie qu'eux. C'est aussi un engagement que les uns et les autres on peut prendre, soutenir les actions dans ce domaine. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'action d'ATD Carmonde à Dakar, au Sénégal. Et en fait, notre action là-bas consiste à soutenir des initiatives locales. Et je me souviens d'un père de famille qui avait ouvert une école dans son garage sans aucun moyen et sans rien attendre par ailleurs, juste parce qu'il ne supportait pas que les enfants de son quartier ne puissent pas apprendre comme les autres.
Donc effectivement, c'est des initiatives individuelles prises les unes à côté des autres qui permettent effectivement de voir un peu la lumière au bout du tunnel.
Oui, à la Fondation Épierre, pour cette campagne, on attend quoi? On essaie de mettre en avant des initiatives individuelles, associatives, en France ou à l'étranger, pour montrer que l'imagination peut venir du terrain, des personnes qui sont au contact de la pauvreté. Mais la leçon qu'il faut en tirer, c'est pas il n'y a qu'à laisser se développer toutes les initiatives de toutes les ONG, de tous les particuliers dans leur garage qui peuvent créer eux-mêmes leur école. Non, la solution, ce n'est pas ça. La solution, c'est qu'il y ait des pouvoirs publics en Afrique, en France, un peu partout dans le monde, qui prennent en charge ces services publics, l'accès à l'éducation, aux soins, etc., qui peuvent être par contre aiguillonnés par les particuliers et les associations. Nous, c'est le pari qu'on a fait à la Fondation Abbé Pierre. On a un budget de 45 millions d'euros. On ne va pas résoudre la crise du logement avec 45 millions d'euros. Par contre, on peut orienter les 45 milliards 1000 fois plus de dépenses publiques sur le logement. Et avec nos 45 millions, on essaie de financer des initiatives intéressantes pour dire après au pouvoir public, à l'État, aux collectivités, faites la même chose, peut-être en mieux avec tous vos moyens et avec votre légitimité. Vous êtes élus, nous, on n'est pas élus. Les ONG, les particuliers ne sont pas élus. Ce n'est pas eux qui ont la légitimité et la responsabilité de résoudre tous les problèmes de la société.
Michel Bellassel.
Oui, je voulais dire, c'est vrai, mais il y a des initiatives, il y a des cas où il y a des initiatives particulières qui peuvent être dans le relais s'élargit au niveau des grandes entreprises, voire des États. Je pense à Mohamed Younous, au niveau du microcrédit, qui, en tant qu'ingénieur patenté arrivant au Bangladesh, s'est aperçu à l'issue d'une grande famine qu'il y avait peut-être des choses à faire. Et là, la chose à faire, c'était de trouver un moyen d'accorder des parcelles sans intérêt à quelques femmes qui a permis, parce que c'est surtout les femmes qui travaillaient là-bas, et donc elle a permis d'accéder un peu à l'autonomie, un processus qui s'est depuis décliné dans différents pays, et puis au niveau des grandes entreprises comme Danone, Veolia. Donc voilà, je veux dire, du particulier, on peut élargir au collectif, au grand collectif, si je peux dire.
Alors pour pointer aussi ceux qui sont le plus touchés, alors dans le monde, bon, c'est sûr que l'Afrique est touchée, on avait tous ces messages qui nous arrivaient de Franck de Brazzaville ou autres qui disent à quel point la pauvreté et la normalité dans ces pays qui vivent effectivement, qui vivent avec. Alors en France, pour la mesurer, cette pauvreté, on disait à peu près, on considère qu'il faut avoir moins de 1000 euros par mois, hein, c'est ça, et ça fait à peu près 8,6 millions de personnes, hein, si on fait ce compte. C'est important de mesurer cette pauvreté à TD Quart-Monde, par exemple.
Oui, mais alors pas seulement avec des indicateurs monétaires. Bon, il y a d'autres indicateurs qu'on appelle les indicateurs de la pauvreté en conditions de vie. Qui mesure par exemple si on mange de la viande régulièrement, si on peut accueillir des voisins pour un café, etc. Et ça, ce n'est pas encore suffisant, parce qu'une dimension de la pauvreté, par exemple, qu'on n'arrive pas à mesurer et qui existe très fortement dans tous les pays du monde, c'est le fait de se sentir mis de côté, exclu, humilié. C'est la honte qui est associée à la pauvreté. Et à TD Quart-Monde, on lance un grand chantier pour essayer de renouveler ces mesures de la pauvreté au moment où les grandes institutions internationales se lancent comme défi de mettre fin à la pauvreté en 2030.
Oui, c'est l'objectif du millénaire, hein, 2030, voilà. Éradiquer la pauvreté au niveau mondial.
En fait, elles ne se demandent pas qu'est-ce que veut dire la pauvreté, ou elles mesurent la pauvreté à partir d'indicateurs qui ont été fixés par des experts et qui ne mesurent pas toutes les dimensions de la pauvreté. Donc dans les cinq continents, on lance un travail avec l'université d'Oxford pour et enrichir ces indicateurs de mesure de la pauvreté afin que les institutions internationales, dans les 2-3 ans à venir, puissent saisir mieux ce que signifie la pauvreté dans les différents pays.
Vous, à la Fondation Abbé Pierre Manuel Domergue, donc vous, un des piliers de cette pauvreté, c'est effectivement le mal logement. Vous mesurez à près de 12 millions de Français, hein, qui seraient touchés de près ou de loin par la crise de logement. À partir de quand on est mal logé?
Alors, on essaie de montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la crise du logement en France à des degrés divers. Donc, on a 3,8 millions de personnes qui sont vraiment mal logées. Donc, c'est le cœur du mal logement, des personnes qui soit n'ont pas de logement du tout, soit sont en centre d'hébergement, soit sont hébergées par des amis, ou sont en surpeuplement très grave. Et puis au-delà de ça, il y a 12 millions de personnes qui sont fragilisées parce qu'elles vivent dans une copropriété en difficulté, en surpeuplement modéré, parce qu'elles ont froid chez elles. Donc c'est important de montrer toutes les facettes de cette crise du logement aussi pour montrer qu'on peut être assez nombreux à être concernés, mais qu'il ne faut quand même pas oublier les personnes qui sont tout en bas de l'échelle. Et l'intervention des pouvoirs publics ne sera pas la même pour une personne qui est à la rue et une personne qui a simplement froid de temps en temps chez elle. Il y a des urgences qui ne sont pas, tout à fait les mêmes. Mais c'est important de montrer justement ces différentes facettes de la crise du logement parce qu'on n'est pas pauvre de la même manière quand on gagne 800 euros et qu'on est propriétaire de sa maison à la campagne, et quand on a 800 euros et qu'on a deux enfants et il faut les loger à Paris, par exemple, ou en région parisienne.
Alors l'abbé Pierre, eh bien, c'est l'homme qui a créé, hein, votre fondation. Il est à l'initiative de tout ça. Et Michel Bolassel, il est aussi dans votre livre, hein, « Les insurgés de la pauvreté », hein, pour relater sa vie. Alors pourquoi vous l'avez choisi dans vos figures?
Parce que ça fait partie des personnages, je dirais, incontournables qui ont été tellement à l'avant-scène qu'on, on ne peut pas les occulter.
Longtemps, il était l'homme le plus populaire en France.
Bien sûr. Je crois qu'au panel des gens les plus populaires depuis 50 ans, il figure en deuxième ou troisième position encore. Non, mais il y a François d'Assise, Vincent de Paul, Mère Teresa, Sœur Emmanuel. Mais ce que nous avons voulu faire dans le livre, c'est aussi mettre en avant des gens beaucoup moins connus. Et puisque
Jean-Christophe
évoquait ces aspects de l'humiliation et de la mise à l'écart, je pense que des gens comme le Pedro Meca à Pigalle, mais Mathieu Dauchez à Manille, auprès des enfants de Manille, et le père Opeka à Madagascar, sont des gens qui ont mis la main sur les épaules des gens, qui ont regardé, qui ont prêté attention à tous ces défavorisés. Et Dieu sait que c'est important aussi dans cette démarche de pauvreté. Les gens ça se passe souvent, pour les deux premiers, ça se passe souvent la nuit, mais des gens qui, d'une nuit à l'autre, ont été réhabilités, si je puis dire, qui ont repris confiance.
On va les découvrir dans la deuxième partie. Vous restez avec nous, Michel Bolassel, auteur des Insurgés de la pauvreté aux éditions Philippe Ray. Manuel Domergue, également de la Fondation Abbé Pierre, et Jean-Christophe Sacro de ATD Quart-Monde. Les voisins, les voisines, on attend vos messages. Est-ce possible d'éradiquer cette misère en 2016? On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71.
RFI. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous retrouver. On parle du refus de la misère. C'est la journée mondiale aujourd'hui. Alors combien y a-t-il de pauvres? On parle d'un milliard de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Des chiffres qui font froid dans le dos et aussi des peurs qui touchent les plus jeunes. En 2015, une étude montrait qu'en France, 60% des jeunes entre 8 et 15 ans avaient peur d'être pauvres un jour. Et vous les voisins, les voisines, est-ce que ça fait partie de vos peurs? On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Comment lutter contre la misère en 2016? On en parle avec Jean-Christophe Sarraud de ATD Carmont, donc un livre vraiment passionnant, 3e édition, pour en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, avec votre campagne que vous avez lancée, hashtag On attend quoi? Et oui, on attend quoi alors qu'on dénombre près de 3 millions de logements sans occupants en France? Et en face, vous faites une équation en face, 140 000 personnes, donc sans domicile fixe. On va revenir sur vos propositions. En tout cas, vous êtes bien mobilisé, vigilant pendant toutes ces élections, cette période d'élections présidentielles en France sur 2017. Et Michel Bolassel, donc vous avez consacré un ouvrage à ces hommes, ces femmes qui se sont engagés auprès des plus démunis. Ça s'appelle « Les insurgés de la pauvreté » aux éditions Philippe Ray. Il y a donc Jean-Christophe Ruffin, vous l'avez cité dans la préface, qui écrit « La pauvreté est une énigme et tenter de la réduire suppose de percer le secret ». Comment faut-il entendre cette parole du président d'Action contre la faim?
Je pense qu'il évoque un peu la partie globale de la pauvreté. Et si, pour en avoir discuté ensemble, je pense que le personnage emblématique pour lui de la pauvreté que nous avons décrit, c'est Simone Veil. Simone Veil, la philosophe, je veux dire. Et parce que elle avait une notion de probité, d'égalité, de justice, je veux dire, qui lui faisait mettre dès l'âge de 10 ans une pièce sous la serviette quand elle rentrait du lycée pour dîner à la maison. Enfin, je veux dire, ça, c'est un sentiment de justice extraordinaire, comme quand elle s'est laissée mourir 6 mois à l'hôpital de Kensington en Angleterre, parce qu'elle ne voulait pas accepter plus d'une ration par jour, la ration qu'avaient les prisonniers de guerre. Et donc Simone Veil, qui a partagé la condition ouvrière dans son livre, la condition ouvrière des ouvrières de Renault, pour vivre cette situation de pauvreté, la vivre intégralement. Donc c'est le prototype, c'est peut-être ce secret-là, percer ce secret, c'est-à-dire d'aller, me semble-t-il, avoir une démarche du pauvre, dépasser celle du don, de le monde, de l'action ponctuelle qu'on peut faire pour accéder à cette empathie, cet amour total pour les pauvres.
Oui, c'est vrai que percer le secret, les personnalités que vous évoquez, de Saint-François d'Assise, par exemple, qui était la voix des sans-voix, le pape aussi, François, à un moment, il y a vraiment cette idée que pour combattre la pauvreté, il faudrait d'abord la vivre comme telle. Ils ont fait à un moment le choix de cette pauvreté, peut-être pour percer le secret. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
L'abbé Pierre, on le présentait souvent comme la voix des sans-voix, effectivement. Mmh. Mais ce qui est plus intéressant, ce n'est pas d'ajouter un pauvre à tous les pauvres en faisant semblant d'être pauvre. C'est que les pauvres eux-mêmes puissent s'exprimer et qu'ils n'aient pas besoin d'avoir une voix des sans-voix, qu'eux ne soient plus sans-voix et qu'ils puissent avoir accès aux médias, aux institutions. On a monté un programme pour que les personnes qui sont accueillies dans les accueils de jour ou dans nos pensions de famille, donc des personnes qui ont vécu à la rue longtemps, etc., puissent avoir accès aux parlementaires, aux députés, aux sénateurs, dans des rencontres, et puissent expliquer ce que c'est la vie quand on n'a pas de logement, mais qu'ils le fassent eux-mêmes, pas toujours par l'intermédiaire de quelqu'un qui se met à leur place, qui parle à leur place, un peu comme on le fait nous-mêmes ici.
Oui. Mais il faut vraiment leur donner la parole. Le drame des pauvres, c'est qu'ils n'ont pas le choix, justement. Mmh. Jean-Christophe Sarraud, d'ATD Carmont, ça fait partie de ces idées reçues. On pense qu'en fait, s'ils voulaient vraiment s'en sortir, ils le pourraient. Donc, quelque part, ils le méritent.
Oui, il y a toutes ces représentations qui nous font croire que les personnes dans la précarité sont responsables de leur situation ou incapables de s'en sortir, qu'il faut casser absolument. Mais je voudrais redonner un petit signe d'espoir aussi, parce que pour pas qu'on soit peut-être trop pessimiste, que les auditeurs réalisent que quand on se met ensemble, en fait, on peut faire bouger des montagnes aussi, malgré toutes les, l'énormité de la tâche qui semble peut-être à faire. C'est ce qu'on a vécu récemment, ces derniers mois en France, parce que des citoyens de tous milieux qui ne se parlaient pas forcément ensemble se sont mis autour de table pour travailler sur plusieurs mois, par exemple à la création d'une complémentaire santé qui permette à chacun de se soigner. Et cette complémentaire santé, on l'a créée, elle s'appelle Access Santé. Elle permet à des gens maintenant de se soigner comme jamais ils ne pouvaient le faire auparavant. Et on expérimente bientôt une action de lutte contre le chômage de longue durée qui va consister à proposer un emploi en CDI au SMIG, salaire minimum, à chaque personne au chômage de longue durée qui le souhaite. Et tout ça n'a été possible que parce que des gens se sont mis ensemble et c'est pendant 2-3 ans, alors ça prend du temps, mais ce qu'on vit à l'échelle de la France, qui est la 6e puissance mondiale et qui devrait être un exemple pour le monde entier, peut se vivre peut-être à d'autres échelles dans chaque pays, je pense.
Alors, vous disiez se mettre ensemble, effectivement, pour faire bouger, secouer un peu le cocotier et arriver avec des idées neuves. Mais c'est le cas aussi de Falou, qui nous appelle de Barcelone. Bonjour, Falou.
Bonjour, Sandrine.
Alors, merci de témoigner sur l'antenne d'RFI. Vous avez créé une association aussi, racontez-nous.
Ok, nous avons monté une association, OVAX, qui signifie Usui Jeunesse Association Culturelle et Sportive, est basée à Usui dans la Casamance. On organise des activités que les enfants choisissent eux-mêmes, danse, chant, théâtre, peinture, dessin, art artistique. Vu de ces activités, les enfants sont conscients que cette vie, il faut se battre pour enterrer cette misère, pauvreté.
Donc ce sont des activités que vous proposez à des enfants qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Ça leur redonne le goût de vivre, c'est ça?
Exactement. C'est pour cela, comme la citation de Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde.
Alors vous l'avez pris donc au mot, vous l'avez pris au mot et vous-même vous avez créé un projet, racontez-nous.
Oui, c'est pour cela qu'on a monté un projet sur le site Ulule, www.ulule.com, un enfant, un sac. On cherche à donner les enfants de jolis sacs scolaires car d'autres y vont à l'école sans le matériel scolaire au complet. C'est pour les motiver à aimer encore l'école. Tu vois?
Oui, c'est pour leur donner, pour qu'ils ne partent pas juste avec un sac plastique, par exemple, pour qu'eux aussi puissent partir avec un beau sac à l'école et qu'ils soient fiers d'aller à l'école.
Oui, comme l'éducation est essentiellement la vie humaine, c'est elle qui permet d'avancer, de dominer ses passions, de tempérer ses violences, c'est elle qui nous apprend le respect d'autrui. C'est ça.
Et alors pourquoi, par exemple, Falou, comment vous avez décidé, vous, de vous engager là auprès de ces enfants démunis?
Parce que les enfants, après l'école, sont laissés à la maison, ils ne font rien. Nous, on organise, on les amène dans l'association, on fait tout avec eux, toutes ces activités qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux, à comprendre la vie aussi. Comme les associations, c'est presque une troisième maison d'éducation des enfants. Comme la première, c'est la maison familiale, la deuxième, c'est à l'école, l'association est la troisième moyen d'éducation pour éduquer ses enfants.
Oui, merci beaucoup, hein, Falou, pour ce témoignage. C'est vrai que le rôle des associations, bon, vous êtes à TD Carmonde, effectivement, et vous à Abbé Pierre, c'est un lieu dans lequel on se reconstruit aussi, et c'est ce que vous permettez aussi, Falou, à ses enfants. Jean-Christophe Sacro de TD Carmonde, merci beaucoup, hein, pour votre témoignage, Falou.
Oui, et quand on se réunit autour de questions comme l'éducation ou la culture, en fait, on ne se réunit pas à partir de ce qui manque à certains et ce que possèdent d'autres, mais à partir d'ambitions communes qui sont qu'on puisse construire les uns et les autres la société, s'apporter des choses les uns aux autres, et ça, de quelques milieux qu'on soit, on peut le faire. Donc c'est cette année, cette journée d'aujourd'hui, la journée mondiale du refus de la misère, va mettre sous le projecteur plein d'actions culturelles menées dans tous les milieux qui montrent que la culture, l'éducation sont les premières armes pour agir contre la misère.
Et c'est la manière aussi de se regrouper, d'être ensemble au sein d'associations, par exemple, comme avec, avec vous, avec l'abbé Pierre, c'est de sortir de cet isolement et justement de prendre de la force.
Oui, tout à fait. On a monté avec beaucoup de centres d'accueil de jour ou de pension de famille des personnes en grande difficulté un festival culturel, par exemple, qui s'appelle C'est pas du luxe. Avec l'idée, c'était la culture, c'est pas du luxe, même quand on n'a pas de logement ou quand on est en grande difficulté. C'est pas juste un supplément d'âme qu'on aura une fois qu'on aura résolu tous les problèmes. C'est parfois même le moteur pour pouvoir s'en sortir, pour changer l'image qu'on a de soi-même et l'image que les autres ont de vous-même, ce qui souvent va de pair. Et c'est de la culture en tant que spectateur et en tant qu'acteur de culture. Donc monter des programmes justement dans ce sens-là pour que les personnes qui sont vraiment tout en bas de l'échelle, qui ont été cassées par la vie, par la violence de la société, puissent se reconstruire petit à petit. Et le logement est un palier très important pour ensuite avoir accès aux soins, avoir accès à l'éducation, avoir accès à la culture. Parce que quand on n'a pas de logement, c'est vraiment très difficile de lancer toutes ces démarches. Donc c'est, on pense le logement comme un préalable et pas comme l'aboutissement d'un processus. C'est ce qu'on appelle le logement d'abord. Il ne faut pas attendre que les gens soient soi-disant en capacité d'habiter une fois qu'ils ont rempli tous leurs papiers, qu'ils ont arrêté de se droguer, qu'ils se sont soignés, etc. C'est le préalable, d'abord en logement et ensuite on peut faire tout ça.
Alors il y a les associations qu'on entend là qui permettent effectivement de se fédérer, d'être plus fort. Et puis il y a aussi ces figures que vous avez mises en avant, ces insurgés de la pauvreté, Michel Bolassel chez Philippe Ray, aux éditions Philippe Ray, sont des personnes aussi qui montrent le chemin, qui donnent de la lumière et qui donnent aussi de l'espoir et de l'espérance.
Tout à fait. Je fais référence, implicitement, vous faites référence peut-être à Patrick Giros, qui était à l'initiative de l'association aux captifs La Libération, qui a beaucoup fait pour l'aide aux drogués, aux prostituées, etc. Mais pas seulement. Et au niveau de la réhabilitation, de la reconstruction des êtres. Mais d'une façon globale, dans cette reconstruction, moi, je suis extrêmement sensible aujourd'hui et un sujet d'optimisme tout autant que Jean-Christophe pour les initiatives qui sont prises par un mouvement de jeunesse universitaire européenne. Par les jeunes de plus en plus nombreux au Secours catholique, au Secours populaire. J'en vois à Perpignan, qui viennent donner des cours, qui viennent demander de quelle manière ils pourraient être utiles. Tout ça me semble procéder d'un élan. Qui est positif.
Alors, comment trouver de nouvelles voies pour lutter contre la misère? On continue après Mia qui chante Borders.
Freedom, I don't need 'em. Where should we read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. What's up?
Quelles sont les idées neuves pour éradiquer la misère en ce jour de refus, cette journée mondiale du refus de la misère? Est-ce une utopie de croire qu'on peut arrêter la pauvreté? Nous sommes avec Jean-Christophe Sarraud de ATD Quart Monde, Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre et Michel Bolassel, auteur des Insurgés de la pauvreté aux éditions Philippe Ray. Et on sort tout de suite du studio, direction le Brésil. Au Brésil, la lutte contre l'extrême pauvreté engagée par le charismatique président Lula, puis la présidente Dilma Rousseff, a permis de grandes avancées en 15 ans. Mais la donne a changé avec la crise économique et la destitution de la présidente. Alors la misère risque-t-elle de regagner du terrain? Et nous sommes en direct avec notre correspondant François Cardona. Bonjour François.
Bonjour Sandrine.
Alors vous êtes en direct de Rio de Janeiro. Les efforts entrepris donc par les autorités brésiliennes ont-ils réellement eu des effets notables sur la pauvreté dans le pays?
Oui, en 20 ans, le Brésil a obtenu de très bons résultats, il faut le dire, en matière de lutte contre l'extrême pauvreté et la faim à l'échelle nationale en 1990. Plus de 30 millions de personnes vivaient avec moins de 2 dollars par jour. En 2010, ils étaient moins de 13 millions. C'est la conséquence de politiques publiques qui ont été engagées dès le début des années 80. Début des années 2000, d'abord par le président Lula, puis ensuite par la présidente Dilma Rousseff, via des programmes sociaux à grande échelle et des aides financières directes qui ont permis à plus de 30 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Il y a eu lancé en 2003 le programme Faim Zéro qui a multiplié par 8 les prêts accordés aux petits agriculteurs et puis aussi la très connue Bourse Famille, la Bolsa Familia qui a permis le transfert direct d'argent vers les familles en situation de pauvreté extrême avec en contrepartie certaines conditions, les enfants doivent par exemple être scolarisés et les familles reçoivent entre 15 à 45 euros par mois d'aide financière directe.
Alors vous nous dressez là un panorama plutôt encourageant, mais la pauvreté n'a pas vraiment été totalement éradiquée et ces aides, elles restent temporaires.
Oui, non, l'extrême pauvreté n'a pas été éradiquée, elle a reculé, la situation pour autant reste préoccupante selon plusieurs ONG qui travaillent sur le sujet ici au Brésil, dont Oxfam. Les populations pauvres et moyennement pauvres, oui, certes, ont vu leur niveau de vie s'améliorer ces 10 à 15 dernières années, mais les plus pauvres le sont restés dans le nord-est du pays, frappés par une grave sécheresse, mais aussi dans les régions d'Amazonie, des centaines de milliers de familles vivent toujours dans des conditions extrêmement précaires, une situation paradoxal, vous le voyez, alors que, comme le soulignait récemment Oxfam, les statistiques montrent que le Brésil, en moins de 10 ans, tout de même a réduit la malnutrition infantile de 61%, par exemple, et la pauvreté rurale de 15%.
Alors on peut quand même pointer le fait que ce recul de l'extrême pauvreté au Brésil a été quand même favorisé par les décisions politiques. Alors maintenant que la présidente Dilma Rousseff est destituée, à quoi doit-on s'attendre, François?
Alors, le pays est confronté à une grave récession économique en plus de cette crise politique qui a secoué le pays ces derniers mois. Le chômage était en très forte hausse. Et le successeur de Dilma Rousseff, Michel Temer, un conservateur de droite, lui a promis de réduire les dépenses publiques avec un plan d'austérité rigoureux qu'il est en train de mettre en place, de remise à plat de ses fameux programmes sociaux, de gel des salaires alors que l'inflation des prix grève déjà le budget des ménages. L'extrême pauvreté a donc reculé, mais c'est une avancée précaire, vous le voyez, et pour des familles extrêmement vulnérables déjà à la crise économique et aux difficultés financières qui en découlent.
Merci beaucoup François Cardona d'avoir été avec nous en direct depuis Rio de Janeiro. Alors on va aller à côté de Rio, on va rester en Argentine peut-être avec Buenos Aires, puisque Michel Bolassel, le pape François, c'est là que tout a commencé.
Oui. Effectivement, moi j'étais à Buenos Aires quand le pape François a été élu. Bon, j'ai écrit immédiatement et puis surtout, j'ai eu la chance d'avoir des confrères de La Nation, le grand journal de Buenos Aires, qui m'a indiqué d'où venait François. Nous sommes allés, alors là pour le coup, dans un quartier de Buenos Aires complètement impossible à pénétrer, etc. Et il m'a fait voir l'endroit où François était né. C'était le quartier de Flores. Et à 200 mètres, même 150 mètres, il y a le quartier de Barro Flores, où il y a la plus grande avicha, c'est-à-dire le plus grand bidonville de Buenos Aires, la avicha 21. où, depuis 30 ans, quand il a été vicaire, quand il a commencé son travail de vicaire, il s'est intéressé aux pauvres immigrés, essentiellement à l'époque immigrés boliviens et paraguayens qui venaient là. Et non seulement il a contribué à les réinsérer, à leur redonner courage, à leur redonner force en reconsidérant l'importance de la piété populaire, mais il a installé aussi les successeurs. Je pense au Padre Gustave, que je fais référence dans le livre. Ce sont des êtres absolument extraordinaires qui considèrent les membres de cette Vicha de bidonville comme leur famille. Et il nous a dit avant de partir que tous les 15 jours, le pape François avait appelé l'une ou l'autre famille sur leur portable, sur son portable, le portable, et pour demander des nouvelles. Là, on est dans le lien étroit entre la pauvreté. Je veux dire, c'est pas une action, c'est une action qui demeure, une action dans le temps, une action vraie.
Alors Jean-Christophe Ruffin, qui est le président d'Action contre la faim, qui préface votre livre, lui, il écrit, il reste beaucoup à inventer, à tenter, à partager. Alors quelles sont les solutions nouvelles, à votre avis, pour lutter contre cette misère, Jean-Christophe Sacro de ATD Carmonde?
On vient de l'entendre au Brésil, la situation s'est améliorée pour beaucoup de monde, beaucoup de couches de la population pauvre ou moyenne, populaire, mais pas pour les plus pauvres. Il faudrait que, en fait, dans les différentes actions qu'on met en œuvre, que ce soit au niveau citoyen, local, au niveau national, au niveau international, on fixe. Il ne suffit pas de dire on veut faire participer tout le monde et on veut toucher tout le monde. Il faut fixer des objectifs vraiment clairs de justice et d'équité sociale et puis essayer de demander quels moyens il faut mettre pour toucher les personnes qui ne sont pas touchées par les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté. Notre slogan à ATD Carmonde, c'est souvent n'abandonner personne et aller chercher celui qui n'est pas à la table. Parce que ce n'est pas un hasard si on oublie toujours les plus pauvres dans les politiques de développement. C'est parce que ça demande plus de temps, c'est plus compliqué. Il ne suffit pas d'asseoir des gens à une table et de leur donner la parole pour qu'ils la prennent forcément. Donc ça demande vraiment qu'on s'interroge sur les objectifs et puis sur les moyens concrets qu'on met en œuvre.
Alors si les gouvernements voulaient vraiment éradiquer cette pauvreté, cette misère, c'est l'objectif du millénaire, de la Banque mondiale, ils pourraient s'en donner les moyens. On pourrait dire que depuis des dizaines, des centaines d'années, elle existe, cette pauvreté, elle n'a jamais été éradiquée. Donc c'est peut-être qu'on ne veut pas tant que ça la voir disparaître, cette pauvreté, Manuel Domergue.
Oui, il y a beaucoup une question de volonté politique, et on l'a vu au Brésil, pour faire reculer la pauvreté, certes, il y a eu la croissance économique, mais il y a un moment, il y a eu aussi, on donne des allocations aux personnes qui ont peu de ressources, la bossa familia, et on voit qu'en France également, quand on a fait le minimum vieillesse, on a quasiment éradiqué la pauvreté des personnes âgées. Les APL, les aides pour payer son loyer, tout simplement, ça fonctionne quasiment comme des minima sociaux. Ça aide les gens tout simplement à avoir un logement. Et quand on dit, on entend là dans la campagne présidentielle, que certains candidats veulent réduire de 100 milliards d'euros les dépenses publiques, eh ben, on sait que ça va toucher les personnes les plus pauvres. Et l'exemple du Brésil est intéressant parce qu'il montre que ce n'est pas antinomique d'avoir de l'activité économique et d'avoir des aides monétaires fléchées vers les plus pauvres. Au contraire, ça va souvent de pair. Donc, on a beaucoup parlé là de la pauvreté également des jeunes. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes en France sont les plus touchés par la pauvreté et le mal logement? C'est parce que quand vous avez moins de 25 ans et que vous n'avez pas de boulot, vous avez 0 euro pour vivre. Il n'y a pas de RSA, socle, pour les moins de 25 ans. Et ils finissent à la rue quand ils n'ont pas d'aide familiale.
On pourrait croire qu'il y a des équations assez simples à faire au premier abord pour éradiquer cette misère. C'est vrai, quand on voit des logements vides d'un côté, c'est ce que vous dites aussi dans votre campagne, hein, d'un côté des logements vides, de côté des sans-domicile fixe, et ben voilà, on met des sans-domicile fixe dans les logements vides. Oui, Jean-Christophe Sacco.
Oui, je voudrais compléter. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'action de l'UNICEF ces dernières années, qui s'est mise à mettre en œuvre des politiques en particulier contre la mortalité infantile, en ciblant les plus pauvres et en faisant en sorte que ces politiques soient accessibles à tous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit « on veut réduire de tant de pourcents la mortalité infantile », ça veut dire qu'ils ont dit « on veut toucher les familles qui habitent à tel endroit ou qui sont dans telle situation d'exclusion de tous les programmes d'aide ». Comment on va s'y prendre pour ça? Et en sachant que les moyens qui seraient mis en œuvre pour toucher ces familles très reculées, très exclues, pourraient bénéficier à tous. En faisant cela, ils se sont aperçus qu'ils arrivaient à faire reculer davantage la mortalité infantile, qu'ils mettaient en œuvre des politiques plus efficaces, parce que travailler avec les gens les plus exclus. Et ça, que qu'on soit au niveau international ou même local, dans son garage, dans son quartier, pour éduquer les enfants, se demander qui toucher et comment toucher. Et en général, ce n'est pas par des méthodes ordinaires. C'est très, très productif d'actions nouvelles.
Oui. Et dans ces actions nouvelles aussi, j'ai lu dans vos associations, c'est aussi l'idée d'aider les plus pauvres à prendre des décisions pour eux-mêmes. Parce que souvent, le problème, c'est quand on est au plus pauvre, on choisit à sa place. On est un peu, on devient des sous-citoyens, on peut dire ça, oui, Jean-Christophe.
Les plus pauvres, tout simplement, ils savent très bien ce qui ne marche pas avec eux. Donc, ils peuvent dire ce qui... Alors, ce n'est pas à eux de dicter les politiques, mais c'est à eux d'avoir voix égale dans la réflexion avec les experts et les citoyens de tous bords.
Donc, développer effectivement aussi la conscience civique de la population, parce qu'on a quand même l'impression, pour terminer, que la pauvreté, elle est quelque part acceptable.
Le message, je pense, en cette journée de lutte contre la pauvreté, c'est qu'à travers toutes les initiatives qu'on a voulu aborder là aujourd'hui avec les auditeurs également, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui agissent et qu'on n'est pas condamné à cette espèce d'ambiance mortifère où tout le monde se tape dessus, tout le monde stigmatise les pauvres, les assistés, les migrants, etc. Ça fait partie de notre société, cette haine qui monte, il faut le dire, mais elle n'est pas forcément majoritaire. Et l'appel de l'abbé Pierre en 54, c'était ça, c'est ok, il y a des problèmes, ok, le pays, il à reconstruire, tout le monde a des difficultés, mais malgré tout, on ne peut pas oublier les personnes les plus en difficulté si on se mobilise tous.
Merci beaucoup, Emmanuel Demergue, donc de la Fondation Abbé Pierre. Vous avez lancé la campagne hashtag On attend quoi. Michel Bolassel, auteur des Insurgés de la pauvreté aux éditions Philippe Ray, et Jean-Christophe Sacro du ATD Carmonde. Donc, et ce livre, pour en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Merci à tous les voisins, les voisines pour votre écoute. Merci à toute la fine équipe. Et demain, on ira dans les coulisses des missions de l'ONU et en Iran aussi, un pays qui s'ouvre doucement et qu'on connaît mal. Tous vos messages au 33 1 84 22 71 71. À demain.